La vie et le travail des aiguilleurs du ciel. Leur responsabilité considérable dont dépend le trafic aérien et la sécurité de milliers de passagers. Leur journée, ils la passent soit dans une tour de contrôle, soit dans un centre régional de la navigation aérienne, dans la pénombre d'une salle fermée sur l'extérieur. Michel Drucker, vous recevez Germain Chambost, qui est ancien pilote de chasse, Didier Even, qui est contrôleur aérien, et Maurice Georges, responsable au sein de la direction des services de la navigation aérienne. Europe 1 Découverte, jusqu'à 11h.
Oui, Julie, on les appelle familièrement les aiguilleurs du ciel. Ils fascinent, ils intriguent et ils tiennent en main la vie de milliers de passagers à bord des avions. Alors, c'est vrai que leurs compétences, leur savoir-faire professionnel ne font de aucun doute, mais ils ont également le pouvoir de paralyser le trafic. Ils sont 3000 dans les tours de contrôle, les centres régionaux de la navigation aérienne. On va tout savoir sur ce métier assez peu connu. Monsieur Chambost, merci d'être là. Julie l'a rappelé, vous êtes ancien pilote de chasse, journaliste, vous aviez, je crois, 6000 heures de vol, colonel de réserve de l'armée de l'air, membre de l'Académie de l'air et de l'espace, et vous collaborez régulièrement au magazine Science et Vie et au magazine Pilote. Je vous lis souvent, car je suis fasciné par tout ce qui vole, et vous êtes l'auteur de ce livre, Le ciel sous contrôle, qui vient de sortir aux éditions Altipresse. Alors, c'est vrai que c'est un métier particulier. En général, on parle des aiguilleurs du ciel lorsqu'il y a des mouvements sociaux, mais on n'en parle jamais quand tout va bien, et ça va bien pratiquement tout le temps. C'est un métier très très difficile. La première question que je vous pose, on va y revenir longuement, vous qui êtes un ancien pilote de chasse, est-ce qu'il y a des relations entre les pilotes et les aiguilleurs ?
Oui, absolument. Et ces relations, elles
en dehors de leur conversation professionnelle.
Bien entendu, il y a des relations. Alors, elles sont moins nombreuses maintenant que au temps où les escales étaient plus longues, les pilotes pouvaient aller dans les tours de contrôle sur les aérodromes avant de repartir du temps d'air inter, par exemple, pour parler de la France. Mais c'est vrai qu'il y a des relations. Elles étaient parfois tendues, elles se sont beaucoup améliorées et les relations, c'est des relations de professionnels, d'autant plus que les aiguilleurs du ciel, la direction de l'aviation civile, leur permettent de se former comme pilotes privés, c'est-à-dire qu'ils sont des pratiquants. Et en plus, très très souvent, ces pratiquants acceptent des responsabilités dans les instances fédérales. Ils sont souvent instructeurs dans des aéroclubs. Ils ont des responsabilités au niveau national. Donc oui, il y a des relations.
Alors Didier Even, bonjour. Vous êtes contrôleur aérien au centre en route de la navigation aérienne Ouest, basé à l'Opérette, c'est à 15 km de Brest. Il y a combien de zones en France ? Les aiguilleurs du ciel, ils couvrent la région en combien de zones? 4 ou 5? Alors je pose la question éventuellement à monsieur Georges, qui est... excusez-moi monsieur Even. J'ai confondu celui qui était à ma gauche et à ma droite.
Je suis pas encore à sa place.
Alors vous le serez un jour peut-être, hein. Oui, parce que c'est vrai que monsieur Georges est adjoint en charge de la direction des opérations. Alors vous êtes contrôleur aérien au centre de Brest. Racontez-moi, il y a combien de zones couvertes?
Je pense que par zone, bonjour d'abord à tout le monde, je pense que par zone, vous entendez les centres de contrôle, il y en a 5 effectivement en France, un à Reims, enfin historiquement c'est plutôt à Tismons, ensuite alors, Bordeaux, Aix-en-Provence.
À Tismons c'est près d'Orly,
voilà.
Ça c'est le CRNA Nord.
CRNA Nord, ensuite vous avez le CRNA Sud-Ouest qui se trouve à Bordeaux, sur l'aéroport de Mérignac, le CRNA Sud-Est qui se trouve à Aix-en-Provence. Qui est le seul à être en centre-ville d'ailleurs, c'est une particularité à noter.
Et il y en a en Bretagne donc.
Et aussi le centre de navigation, le CRNA S qui se trouve à Reims, et donc celui où je me trouve, le CRNA Ouest, près de Brest.
Alors, sans entrer dans le détail, sur ces 5 sites, à Tismons, ça couvre quoi ?
À Tismons, actuellement, a vu sa part de contrôle un peu réduite du fait que à Tismons ne gère qu'une partie au-dessus, pour simplifier un petit peu, au-dessus de la zone parisienne, à moyenne et basse altitude.
C'est ça.
Puisque maintenant, les centres de contrôle de Brest et de Reims sont pris en charge des secteurs qui se trouvent au-dessus de la région parisienne à haute altitude.
Haute altitude, Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, toute la partie sud-est de la France, avec une partie sur la Méditerranée.
Ouais.
Le CRNAS a en charge la partie nord-est de l'Hexagone. Bordeaux se garde la partie sud-ouest et le CRNAS. Pardon,
c'est Mérignac, donc.
Mérignac, tout à fait. Et comment dire, le Serena West, donc à l'opérette, qui gère la partie nord-ouest de la France, en gros de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Espagne, et en gros de la région parisienne jusqu'à 250 km à l'ouest de Brest.
Alors,
toute une façade océanique.
Maintenant, je donne la parole à Monsieur Georges, l'adjoint en charge de la direction des opérations au sein de la direction des services de la navigation aérienne. Alors, vous répondez, à moins que ce soit Monsieur Jean-Bosse qui réponde, les contrôleurs aériens, ce qu'on appelle plutôt les aiguilleurs du ciel, ils surveillent les avions en vol. Ils assurent la croisière.
Oui, bonjour à tous, donc Maurice Georges. Oui, les contrôleurs aériens, donc, qui sont dans les 5 centres régionaux dont a parlé Didier, sont aussi dans les 80 tours de contrôle, puisqu'on a les tours de contrôle depuis les plus grands aéroports comme Roissy et Orly, jusqu'à des petits aéroports qui ont quand même du trafic important, notamment du trafic de loisirs. Le dernier service de contrôle qu'on a créé, par exemple, était à Angoulême. Donc il y a vraiment un travail très diversifié des petits aéroports.
Il y a combien d'aiguilleurs en France?
Et en France, vous avez cité le chiffre de 3000 contrôleurs aériens, mais comme on a aussi beaucoup d'informations, en fait, le nombre total de contrôleurs aériens qui sont fonctionnaires à la Direction Générale de l'Aviation Civile, c'est environ 4000.
Alors, il y a ceux qui surveillent les avions en vol et la croisière, ce que j'appellerais stabiliser en altitude. Alors, il y a ceux qui assurent la montée et la descente.
Voilà, donc les contrôleurs aériens qui sont dans les tours de contrôle prennent en charge les avions dès qu'ils commencent à rouler sur la piste, mmh. et donc les emmènent jusqu'à la piste de décollage, les autorisent au décollage, et ensuite les avions partent dans le contrôle au voisinage de l'aéroport avant d'être pris en charge 5 ou 10 minutes après par les centres de contrôle régionaux, les 5 grands centres dont vous avez parlé. Ensuite, il y a toute la phase de croisière jusqu'à haute altitude, sur ce qu'on appelle les autoroutes du ciel, j'ai peut-être entendu parler de ça, qui sont oui, en fait des voies tracées sur les cartes, mais qui sont en fait le trafic pour pouvoir passer beaucoup de trafic, et vous savez qu'on a plus de 9000 vols par jour au mois de juin, sont organisés sur des grandes routes pour qu'ils se croisent avec toute la fluidité et la sécurité possible.
Quel est l'écart minimum, la hauteur minimum qu'il faut que deux avions respectent lorsqu'ils sont en vol de croisière?
Les avions sont séparés de 1000 pieds. 1000 pieds parce qu'on utilise des unités de mesure.
Mètres,
des mesures
300 mètres.
Mais c'est 300 mètres.
C'est pas énorme, hein?
C'est pas énorme, mais comme les avions sont très bien, très précis en navigation à cause de tous leurs moyens à bord et qu'ils sont surveillés en permanence par les radars, ça peut. Il n'y a pas de problème particulier. On a tous les moyens pour respecter ces distances. Et s'il y a un moindre écart, de toute façon, l'attention des contrôleurs et tous les systèmes nous permettent de rectifier le tir assez rapidement. Vous avez parlé des relations entre les contrôleurs et les pilotes. Et dès qu'un contrôleur est pris en charge depuis la tour de contrôle pendant tout son vol, il est en contact permanent avec des contrôleurs aériens qui se relaient pendant tout le vol et qui lui permettent de lui dire, de lui donner des consignes.
Encore un mot, lorsqu'on se pose en venant d'une longue destination à Roissy ou à Orly ou ailleurs, il y a également les contrôles au sol.
Oui, alors le contrôle au sol,
c'est une autre fréquence.
On change de fréquence,
la fréquence de roulage.
C'est toujours un contrôleur aérien. C'est un contrôleur aérien qui vous prend en charge pratiquement jusqu'au parking.
Jusqu'au parking et idem dans le sens inverse du parking.
Du parking jusqu'au
décollage.
Jusqu'à destination.
Bien, on marque une pause et on va parler de ce métier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les études? Quel est le cursus pour devenir aiguilleur du ciel, qui est un métier très particulier?
Aiguilleur du ciel, le métier. Aiguilleur du ciel, mode d'emploi, jusqu'à 11h, Michel Drucker.
Alors c'est un métier fascinant, alors je vais demander à Didier Even, qui est contrôleur aérien. Je rappelle qu'il est basé à l'Opérette, à 15 km de Brest. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Comment on devient aiguilleur du ciel?
Alors on devient aiguilleur du ciel en passant un concours, à Bac plus 2. Alors généralement les ICNA qui rentrent en formation ont un cursus identique maintenant, c'est-à-dire Bac plus 2, Maths Sup, Maths Spé. Ensuite, ils passent le concours et s'ils ont la chance d'être reçus, ils rentrent à l'ENAC pour une durée de 3 ans.
L'École nationale de l'aviation civile, c'est ce que vous avez fait, vous?
C'est ce que j'ai fait, mais à l'époque, les conditions étaient différentes. Moi, je suis pas un perdreau de l'année. Hein. Je suis entré dans l'aviation civile en 78 et à l'époque, il suffisait simplement d'un concours au niveau Bac. Le Bac n'était même pas exigé. Pour pouvoir rentrer à l'ENAC. Et à l'époque, les études duraient un peu moins de 9 mois. Et ensuite, on était sur le poste d'affectation.
Ah oui, la formation, c'est 9 mois.
Ouais. Enfin, c'était 9 mois, maintenant c'est 3 ans. Enfin, c'est Bac plus 2. En fait, c'est une formation d'ingénieur. Si on compte les deux années de prépa et les trois années d'ENAC, ça fait 5 ans.
Et comment vous arrivez ensuite sur vos lieux de travail, enfin, sur les 5 sites? Comment vous êtes affecté, soit à Tissement, soit à Bordeaux, soit...
Alors ça, c'est comment dire, l'échelon central de navigation aérienne qui, je pense que Maurice pourrait en dire un peu plus que moi là-dessus, mais... D'une manière pratique, pour les jeunes qui sont en formation, ils connaissent leur poste d'affectation, en gros, après 18 mois d'études. Et à partir de là, une fois qu'ils sont affectés, donc, qui sur une tour, qui sur un centre de contrôle, il y a une formation d'alternance, c'est-à-dire qu'ils alternent des périodes sur leur poste d'affectation et des périodes à l'ENAC, ainsi que des stages à l'étranger pour la formation en anglais particulièrement.
Maurice Georges, vous qui êtes adjoint en charge de la direction des opérations au sein de la direction des services de navigation, est-ce que la formation est différente aujourd'hui de celle qu'a suivie Monsieur Even?
Oui, je crois que la différence, comme l'a dit Didier, c'est que le métier a changé en une vingtaine d'années. Et maintenant, les contrôleurs que nous recrutons, donc après un concours assez sélectif, les emmènent à être non seulement contrôleurs aériens, mais aussi ingénieurs. Donc on a besoin que les contrôleurs aériens aient une formation assez pointue au contrôle aérien d'abord, qui est leur métier de base, mais aussi à l'ensemble des techniques, soit des techniques purement techniques, j'allais dire, soit des techniques de management de la sécurité. Et ce qu'on attend aussi des contrôleurs, c'est qu'après avoir passé un certain nombre d'années dans la salle de contrôle, ils soient aussi amenés à pouvoir devenir dans des postes de management du contrôle aérien. Donc on a besoin d'une formation très complète, et c'est ça, je crois, le gros changement du métier des contrôleurs aériens depuis une vingtaine d'années.
Alors, en travaillant hier soir sur le dossier qui m'a été préparé par Jérôme Lacroix, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. C'est le travail des équipes, les rotations, le planning. C'est assez complexe. Hein. Qui répond? D'abord, il y a combien d'équipes dans les salles de contrôle?
Bon, je vais parler de ce que je connais. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres centres. Enfin, j'ai quelques idées. Mais à Brest, il y a 12 équipes de contrôleurs qui, d'environ, la moyenne, c'est 21 contrôleurs par équipe.
Qui se relaient régulièrement,
donc sur un cycle de 12 jours. Et le rythme de travail, c'est un rythme de travail d'un jour sur deux, c'est-à-dire que l'idée, c'est sur 12 jours travaillés.
Parce que l'organisation est assez compliquée, hein, parce que les horaires sont assez fluctuants. Hein.
Bah, les horaires sont calés en fonction des périodes de trafic qu'on est amené à rencontrer. Ouais. On essaie de faire en sorte que, au moment où il y a des points de trafic, où il y a du boulot en salle, ouais, bah, qu'il y ait l'effectif adéquat pour faire passer le trafic.
On rentre maintenant dans une période de gros trafic jusqu'à fin septembre.
Oui, on y est déjà depuis. Pour nous, l'été commence au mois de mars, Maurice, c'est ça?
L'été aéronautique. Des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc en gros, c'est 6 mois de l'année l'été.
Alors, exemple, vous faites un jour 8h-14h, j'ai vu ça. Le lendemain, 10h-20h, puis une nuit parfois.
C'est ça.
Bon. Et ensuite, il y a combien de repos?
3 jours de repos.
3 jours de repos.
Et on rattaque sur un cycle de 3 jours de boulot.
C'est-à-dire, vous repartez sur 7h-18h, le lendemain, 12h-20h, c'est ça?
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Et une nuit ensuite, je pense.
Alors, un contrôleur reste combien de temps devant ses écrans?
Alors, pas plus de 2 heures. 2 heures sur un secteur, ensuite 1 heure de repos ou alors 1 heure de repas. Et ensuite 2 heures. C'est des alternances de périodes de travail de 2 heures entrecoupées de pauses d'une heure.
Alors, dans les périodes chaudes, c'est le cas maintenant, vous avez combien d'appareils à gérer en même temps? Parfois on m'a dit une quinzaine d'appareils.
Ah oui, sur un secteur, oui, on peut aller jusqu'à 15, voire plus éventuellement, ça dépend de la nature du flux de trafic, mais la moyenne c'est ça, 15. Au-delà de 15, ça devient chaud, quoi.
15, ça veut dire que vous êtes en contact avec 15 commandants de bord, soit des longs courriers qui vont arriver, soit sur le territoire national, un avion qui part de Nice qui va à Paris, il est très vite en contact avec vous.
Oui, comme a dit Maurice tout à l'heure, en gros 10 minutes après le départ du terrain, le pilote est en contact avec le centre de contrôle régional jusqu'au début de la descente.
Monsieur Chambos.
Oui, on a prononcé le mot de secteur. L'espace aérien au-dessus d'un pays comme la France est divisé en secteurs, c'est-à-dire des tranches d'altitude et des limites géographiques, de façon à ce que les contrôleurs ne soient pas débordés. Et le contrôleur qui gère un secteur, il a au maximum 15 avions à gérer. Et en France, au total, 80 secteurs existent. Pour pouvoir permettre aux contrôleurs de travailler en toute sécurité et en toute diligence, on a divisé l'espace en secteurs. Oui. Il était impossible de leur donner à gérer une grande région comme ça se faisait il y a 40 ans. Maintenant, 80 secteurs, c'est quand même beaucoup.
Alors, vous avez dit 2 heures, pas plus de 2 heures devant son écran. 2 heures, il y a une fatigue qui se fait sentir. Si on a fixé à 2 heures, c'est pas par hasard.
Ben oui, parce qu'au bout de la... et encore une fois, ça dépend de la nature du trafic. Il y a des périodes qui sont plus ou moins chargées. Évidemment, en période de trafic chargé où vous avez vraiment beaucoup d'avions à appeler en même temps, où la charge de fréquence est importante, c'est clair qu'après 2 heures, on est content de laisser son siège aux collègues qui arrivent.
Alors, c'est un métier de stress. Hein. On va réécouter tout à l'heure un témoignage à propos de la catastrophe de Tenerife, qui est encore dans toutes les mémoires. Alors, une erreur de la part de l'aiguilleur, ça peut provoquer une catastrophe. Ça veut dire que, je m'adresse à vous, Monsieur Jordes, il y a des examens médicaux, des consultations, des visites médicales aussi pointues que pour les pilotes?
Ah oui, c'est aussi pointu que pour les pilotes. Et très régulièrement, les contrôleurs aériens doivent repasser un exercice à une visite médicale. Et effectivement, c'est indispensable pour pouvoir continuer à contrôler, d'avoir sa visite médicale à jour. Parce que je crois que c'est effectivement important. Mais au-delà de ça, vous avez parlé tout à l'heure des équipes de contrôle. C'est assez important de comprendre que le fonctionnement en équipe permet aussi que le contrôleur ne soit pas seul face à son métier. Et quand on est dans une salle de contrôle, les contrôleurs aériens, notamment à Brest, dans tous les grands centres, travaillent à deux, toujours en même temps, sur une position de contrôle. Donc ils travaillent vraiment en binôme. Un peu comme dans les avions, où vous avez le pilote et le copilote. Là, vous avez deux contrôleurs sur une position de contrôle. Et les positions de contrôle, il peut y en avoir jusqu'à 10, 15, 20 ouvertes en même temps dans une salle de contrôle, sous l'autorité d'un chef de salle. Et c'est vraiment une équipe qui travaille ensemble. Ça, c'est très important pour que ce soit un travail d'équipe en toute sécurité.
Alors, vous restez avec nous, c'est passionnant ce qu'on entend ce matin. Vous y penserez peut-être quand vous prendrez l'avion sur la route de vos vacances dans quelques jours.
On parle du métier d'aiguilleur du ciel ce matin avec vous, Michel, et vos invités. Ils sont trois en studio.
C'est un métier passionnant et c'est un métier où il faut avoir une voix. Monsieur Chambos, moi qui suis un pilote du dimanche, qui m'a frappé la première fois quand je volais au-dessus de Paris, c'est que j'étais sensible à la voix, qu'elle soit féminine ou elle soit masculine. C'est important, la voix, pour vous. Hein?
Très important, c'est rassurant. Et au bout d'une certaine pratique, de quelques mois ou de quelques années de pratique, on reconnaît la voix des contrôleurs ou des contrôleuses.
Et inversement, ils reconnaissent la voix du pilote.
Absolument, absolument. Sans s'être jamais vu,
oui.
Il y a une familiarité qui s'installe entre les pilotes, notamment les pilotes du dimanche, parce que les pilotes de ligne, eux, ils entendent des voix dans toutes les langues, etc., etc. Mais les pilotes du dimanche, il y a une familiarité, et c'est très rassurant pour un jeune élève pilote de reconnaître la voix de son contrôleur. Ils se l'approprient, ils disent « mon contrôleur ».
Et c'est rassurant pour un jeune pilote qui est finalement largué dans les mêmes conditions que les professionnels, parce que même si on est pilote privé, au-dessus de Paris, au-dessus de Paris. Hein. Et c'est rassurant de savoir que la voix féminine ou masculine qui vous parle a senti que vous étiez un pilote du dimanche.
Oui, oui, absolument.
Que vous n'aviez pas encore 3000 heures de vol.
Absolument. Ouais. Et quelquefois, quand les pilotes s'égarent, il faut entendre les messages extraordinaires, les gens un peu paniqués, je suis perdu, quelle était votre dernière position sûre, et ils récupèrent les jeunes pilotes pour les ramener sur un terrain comme ça.
Qu'importent les technologies, le contact verbal entre pilote et contrôleur sera toujours crucial.
Oui, d'autant plus que il sera toujours crucial parce que les encore une fois, ce sont les jeunes pilotes qui se familiarisent comme avec une voix familière, avec la voix des contrôleurs, et on ne l'oublie jamais. On s'est aperçu que des pilotes qui avaient 15 000 heures de vol, quand quelque chose commençait à ne plus bien marcher à bord, spontanément ils revenaient vers leur apprentissage du début. Donc la voix familière, rassurante du contrôleur vient à leur secours à ce moment-là.
D'ailleurs, vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui les progrès technologiques pourraient faire qu'un jour le système de contrôle aérien soit entièrement automatique, mais ça sera peut-être le cas un jour, ça se pratique déjà sur certains vols transocéaniques, mais ce serait sous-estimer, dites-vous, la force du lien humain.
Absolument. On le voit très bien quand on fait. J'ai fait récemment un vol à bord d'un avion pour aller aux Antilles. Les transmissions ne se font plus à la voix, de moins en moins, sauf en haute fréquence, mais la qualité de la transmission n'est pas terrible. Donc ça se fait de plus en plus par transmission de données. C'est-à-dire que les pilotes envoient un message pour donner leur position et leur estimé de passage au prochain point de compte rendu. Mmh. Et en retour, ils reçoivent un message sur un papier. Il y a quelque chose qui manque quelque part.
Ah bah oui, on est loin de Saint-Exupéry. Là.
On est loin de Saint-Exupéry. Mais Saint-Exupéry, au début, il n'avait pas de transmission du tout.
Oui, monsieur Georges.
Oui, je Je crois que la voix est importante. Et effectivement, les contrôleurs aériens, d'abord, ils parlent plusieurs langues, puisqu'ils parlent leur langue naturelle. En France, on peut contrôler un aérien en français avec des pilotes qui parlent français, mais ils parlent aussi en anglais, qui est la langue internationale, avec un langage très, sinon codé, du moins très précis, très professionnel, avec un entraînement particulier.
Et vous le suivez où, cet entraînement en anglais?
En anglais,
ça fait partie de la formation.
Ça fait partie de la formation initiale à l'École nationale de l'aviation civile. Ça fait partie de la formation continue. Dans tous les centres de contrôle, nous avons des spécialistes de la langue anglaise qui donnent des cours en anglais réguliers. Donc chaque contrôleur a un entraînement régulier pour avoir le bon anglais qui permet d'avoir une communication. Vous avez parlé des technologies. Effectivement, je crois que les technologies, elles permettent et elles permettront de soulager la charge de travail du contrôleur pour que le contrôleur aérien puisse passer un certain nombre d'informations techniques par des liaisons de données. Mais je crois que la voix reste importante et justement l'idée des technologies, c'est qu'on puisse garder l'essentiel de la communication entre le pilote et le contrôleur. Et ça, je crois que c'est vraiment toujours très utile. Et je crois que les pilotes, notamment quand ils arrivent en transatlantique et qu'ils arrivent avec le premier contact avec le centre de contrôle aérien de Brest, je dirais pas que c'est bienvenu au pays, mais ça fait partie du premier contact, ça fait partie de la prise en charge, ça fait partie de l'arrivée. Et très souvent, il y a, je crois qu'il y a, un message qui passe. Et c'est vraiment très important au-delà de la technique.
Sur un vol transocéanique, transatlantique, on est coupé du sol pendant combien de temps? Pendant plusieurs heures?
Je ne sais pas ce que vous appelez couper du sol. Les communications radio existent toujours.
Oui, mais on ne parle plus avec les tours quand on est au...
Ah non, mais on peut aussi communiquer en transatlantique, dans l'Atlantique Nord par exemple. Mmh. Vous avez toujours des communications radio à longue distance avec les contrôleurs aériens du centre de Shannon en Irlande. Et il y a toujours possibilité d'établir un contact radio pour...
Très bien, je remarque que vous avez tous des voix très, très claires. Il y a combien de femmes contrôleuses aériennes?
30% à peu près.
30%.
C'est ce que j'aurais dit aussi, même si je ne suis pas sûr que mes données soient sourdes. Non, c'est un métier qui est très mixte, je crois que.
Il faut important. Une bonne voix.
Ah, il faut une bonne voix.
C'est le cas de Virginie Salmen, sinon elle ne ferait pas de la radio.
Parlons ce matin d'un métier qui fascine et qui intrigue, le métier d'aiguilleur du ciel, un véritable corps d'élite dont le recrutement passe par une sélection impitoyable. Un métier de stress, hein, puisqu'une erreur de leur part peut provoquer une catastrophe. Avec nous en studio, Germain Chambost, ancien pilote de chasse devenu grand reporter. Il est l'auteur du livre « Le ciel sous contrôle » qui vient de sortir aux éditions Altipress. Maurice Georges est avec nous, de la direction des services de la navigation aérienne. Et Didier Evin, contrôleur aérien au centre en route de la navigation aérienne Ouest. C'est bien comme ça hein, que c'est intitulé. C'est près de Brest. Hein.
Absolument.
Alors dans vos métiers, messieurs, la liaison radio doit être parfaite. Hein. Celle du Club Med pour la pub qu'on vient d'entendre n'était pas tout à fait parfaite. Hein. C'est plutôt 100 euros que 100 euros.
Exactement. Je suis aussi choqué que vous quand j'entends ça.
Un petit clin d'œil au rédacteur de la pub.
De la séance de pub qui n'a pas fait son métier.
100 euros, pas 100 euros. Alors on revient, messieurs, à la liaison radio. Il faut qu'elle soit de très bonne qualité, monsieur Georges. Hein.
Ah, je crois que c'est effectivement assez important qu'elle soit de très bonne qualité.
Et dans l'aviation privée, parfois, le pilote, il est un peu paumé parce qu'on le reçoit 3 sur 5 et pas 5 sur 5.
Ah, ça, vous faites référence à des codes 3 sur 5, 5 sur 5. Donc, je crois que on a tout un réseau d'antennes et de liaisons radio sur toute la France. Et je crois que, outre le fait que la liaison doit être permanente et de bonne qualité, il faut qu'elle soit sûre et qu'on puisse, si on a un problème avec une fréquence. Parce que ça arrive toujours qu'on ait un problème de brouillage. Et je voudrais pas profiter qu'on est à l'antenne pour dire que, des fois, on a des émissions FM qui nous brouille les antennes, qui nous brouille les ondes radio. Donc dans ces cas-là, on est obligé de basculer très rapidement sur une autre fréquence, parce qu'on a chaque fois des fréquences secours. Donc on passe sur une autre fréquence avec le pilote, qui nous permet de rétablir une bonne communication, et après on lance une enquête pour trouver d'où vient la source du brouillage, etc. Donc c'est un très gros travail de technicien en liaison avec les autorités chargées des fréquences.
Lorsqu'à bord d'un avion, on nous dit éteignez vos téléphones portables, c'est à cause de ça?
Non, ça n'a rien à voir. Non, ça c'est vraiment entre le sol et le bord, c'est plus les émissions au sol qui peuvent mouiller. L'important, c'est d'avoir toujours un réseau secours qui permet de basculer sur une bonne fréquence si on a un petit problème de communication.
Alors, il y a forcément des tensions hein, quand des surcharges. Et moi, j'ai le souvenir. Vous avez eu des souvenirs à vos débuts, Monsieur Evin, de situations délicates. Je crois qu'à Brest, que vous êtes arrivé.
Le premier vrai souvenir de situation un peu délicate que j'ai pu vivre, c'était effectivement à mon arrivée à Cherbourg. Mmh. Après quelques semaines, il y a un avion qui s'est crashé juste après le décollage. Alors que pour eux, enfin, on a très vite vu que son décollage était anormal et qu'il irait pas bien loin. Fort heureusement, tout s'est bien terminé. Il y a eu que des blessés légers. L'avion a été endommagé, mais ça, c'est pas bien grave. Mais ce qui m'a, bon, c'est vrai que sur le coup, on se dit, c'est pas possible, là, il se passe quelque chose. Ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est l'arrivée des gendarmes le lendemain matin. Quand vous voyez débarquer des gendarmes dans une tour de contrôle, qui commencent à vous passer, enfin, qui vous soumettent un interrogatoire assez serré sur ce qui s'est passé. Bon, j'étais pas trop inquiet, à la limite, j'étais pas qualifié à l'époque. Donc, j'étais en double avec un contrôleur certifié. Mais, j'avoue que j'y repense encore quelques fois, c'est des trucs qu'on n'oublie pas, quoi. C'est effectivement.
Alors, comme je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là à Cherbourg, car c'était dans mon dossier qu'on m'a donné, je crois savoir que l'avion n'était pas tout à fait en état de voler, parce qu'il avait fait froid et il y avait du givre qui s'était posé sur les ailes.
Absolument.
Ce qu'est l'ennemi du pilote privé.
Ça, oui. Comme je disais, on a très vite vu au moment. Vous savez, quand on est contrôleur dans une tour, on a très vite des repères. On a l'habitude, on sait qu'à tel moment de la piste, l'avion doit être en l'air. L'avion, au bout de 1200 ou près, oui, 1200 mètres de roulement, il était toujours pas en l'air. On s'est dit ça va pas le faire. Et de fait, on a su après coup, effectivement, comme vous le disiez,
il était lourd.
L'avion était resté toute la journée sur le tarmac. Il faisait une température aux alentours de 0 degré. Il avait plu, donc l'avion n'avait pas été dégivré.
Alors, il y a des moments qu'on n'oublie pas, je suppose. Je ne sais pas si vous étiez vous aiguilleur du ciel à l'époque, mais quand on doit aiguiller un avion comme le Concorde, ça laisse des souvenirs forts, ça. Hein.
Oui, c'est vrai que...
Parce qu'un avion qui vole à 2500 km/h, ce n'est pas un avion comme les autres.
Hein. Il reste, effectivement, je pense qu'il est resté dans la mémoire de tous les contrôleurs du CERNAES qui ont eu l'occasion de parler au Concorde, parce que c'est un avion qu'on gérait le matin sur sa rotation sur New York, sur très peu de temps, au moment de l'accélération. L'avion décollait de Gaulle, il allait vers le Havre, ensuite il accélérait au-dessus de la Manche, mais on ne l'avait que quelques minutes en fréquence. En revanche, le soir, quand il rentrait, on l'avait tous les jours, vers 17h, 17h15, et il était encore en vol supersonique jusqu'à Guernesey. Et à Guernesey, il devait passer, il devait être en vol supersonique. Donc il devait revenir à une vitesse normale. Et c'est vrai que c'était un avion qui était particulièrement géré. Comme vous le disiez, c'est un avion quand on vole à 2500 km/h, on peut pas demander les mêmes instructions de contrôle à ce type de vol qu'à un vol normal.
Donc, alors, il m'est arrivé pour des raisons professionnelles d'emprunter le Concorde. Évidemment, j'ai eu la chance de mettre le nez un petit peu dans le cockpit. Et alors, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il avait sa propre fréquence. C'était pas Air France 002, c'était Concorde 002.
Oui, ça, c'est le côté un peu, c'était le côté un peu frime des...
C'est vrai.
Je vais peut-être me refaire des copains chez Air France, mais c'est pas grave.
C'est vrai ou pas, hein?
Ah oui, c'est totalement vrai.
C'était Concorde
002. C'était jamais Air France 002. Ouais. Mais bon.
Monsieur Georges.
Je crois que ce point est assez intéressant parce que Concorde a été précurseur pour beaucoup de choses et Didier a fait référence à des procédures particulières qu'on avait pour gérer le Concorde avec des descentes, des montées qui soient très continues pour économiser le carburant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça faisait des procédures de contrôle aérien très particulières pour optimiser les profils de vol. Et ce qui est intéressant, c'est que Concorde ne vole plus aujourd'hui, mais dans le cadre de la protection de l'environnement, c'est exactement ce qu'on est en train de redécouvrir et de refaire aujourd'hui. Nous avons des expérimentations avec des compagnies aériennes américaines et avec la compagnie Air France pour faire des vols qui optimisent la consommation de carburant avec le contrôle aérien qui s'arrange pour que les profils soient les plus optimisés en montée comme en descente. Et on est en train de redécouvrir en fait des choses qu'on avait mis en place pour le Concorde pour économiser le carburant. Ça, c'est assez intéressant de voir qu'une fois de plus, Concorde a été précurseur de beaucoup de choses en aéronautique.
Je l'ai dit, c'est un métier de stress. Monsieur Even, à vos débuts, vous étiez un peu stressé, évidemment, comme tous les jeunes dans une profession.
Ouais, je crois que la première fois j'ai pris la fréquence à Cherbourg, c'est le collègue qui a été obligé de me dire ce que je devais dire, parce que j'ai eu un blocage, un trou. Pourtant, bon, on était formés, on avait fait des simules à l'ENAC, et bon, c'était un truc basique, hein, le gars qui est en vente arrière il faut lui dire de rappeler en étape de base, vous rappeler en finale. Mmh. Et ça, j'ai pas su le sortir, quoi. Bon, on est un peu ballot, mais enfin bon, ça, on se reprend vite, vous inquiétez pas. Hein. Mais non, pour le reste, il y a aussi le fait que maintenant, je pense que les contrôleurs bénéficient maintenant d'une formation qui est bien meilleure que celle qu'on a pu avoir. Je dis pas que celle qu'on avait était pas bonne. Malgré tout, moi, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je suis dans le métier. Je connais mon métier. Mais en revanche, les jeunes qui arrivent, je pense qu'ils sont d'attaque plus rapidement que nous. On a pu l'être à l'époque.
Alors, il vous faut
au regard du trafic qui passe en tout cas.
Alors, il vous faut les mêmes qualités, certaines mêmes qualités physiques que les pilotes. Il faut une ouïe irréprochable. Il faut une bonne vue, mais il faut bien entendre. Hein. Parce que bon, la conversation, elle est la phraséologie, elle est en français, elle est en anglais. Il faut répéter immédiatement, il faut se faire comprendre. Et c'est vrai que il vaut mieux bien entendre ce que le pilote vous dit et inversement, Monsieur Chambos.
Oui, et je dirais en plus que non seulement il faut bien entendre, mais il faut bien raisonner. C'est ce qui est frappant dans ce métier de contrôleur, c'est que c'est un métier, au fond, d'information. Ces gens-là reçoivent une information de la part des avions ou de la part du radar, et ils ne transmettent que de l'information. Et tout se passe dans leur tête. Et c'est là-dessus que porte, à l'heure actuelle, l'entraînement, suite à des études par des psychologues, qui ont des études qui ont duré 15 ans. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête des contrôleurs, la direction de la navigation aérienne de l'époque, le centre d'études de la navigation aérienne, avait mobilisé une équipe de psychologues en ergonomie cognitive, pour parler pompeusement, et ils les ont mobilisés de façon à comprendre. Le contrôleur lui-même réagissait devant ce qu'il voyait sur son écran radar, il réagissait bien, mais il n'aurait pas été capable d'expliquer comment il prenait ses décisions.
Après une page musicale, on va parler de l'accident de Tenerife qui est dans toutes les mémoires, mais on va surtout parler, c'est l'actualité, de ce que les boîtes noires, si on les retrouve, pourraient réserver du fameux vol tragique Rio-Paris il n'y a pas si longtemps, car vos voix, les voix de vos camarades contrôleurs aériens sont dans les boîtes noires, évidemment.
Michel Drucker et ses invités Maurice Georges, Didier Evin et Germain Chambost pour son livre Le ciel sous contrôle qui vient de sortir aux éditions Altipress.
Alors messieurs Chambost, Evin et Georges, moi j'aimerais qu'on parle, c'est l'actualité, des boîtes noires. En cas d'accident grave et qu'on retrouve les boîtes noires, on retrouve la conversation entre le sol, les aiguilleurs du ciel et le pilote. Et c'est pour ça qu'en cas de tragédie, c'est le cas ce qu'on a vécu pour le vol Rio-Paris, on attend avec impatience ce que vont dire les boîtes noires. Les boîtes noires enregistrent toutes les données du vol, M. Chambos ?
Alors, il y a deux boîtes noires. Il y a celle qui est dans le cockpit, qui enregistre les conversations et les bruits que l'on entend dans le cockpit. Donc les conversations des pilotes entre eux, les conversations des pilotes avec les contrôleurs.
Y compris les conversations privées ?
Absolument. Les parties privées ne sont pas publiées dans les rapports d'enquête qui sont...
Mais elles existent.
Elles existent tout à fait. On a des cas très précis où on a gommé les conversations privées.
Une toute petite parenthèse. Lorsqu'un passager est invité à venir dans le cockpit, parce que le commandant de bord, ça nous arrive souvent d'ailleurs, très gentiment nous invite à faire la descente ou après le décollage, quand il est en vol stabilisé, ces conversations, on les entend.
Bien sûr. Alors, il faut quand même dire que les enregistreurs de cockpit, donc une durée limitée. Ils travaillent en boucle. 30 minutes, et ils s'effacent toutes les 30 minutes. On ne garde donc que les 30 dernières minutes d'un vol. Mmh. Sur les enregistreurs modernes, jusqu'à 2 heures de conversation. Mais les pilotes ont obtenu ça si rien ne s'est passé et qu'il y a eu des conversations, par exemple, privées. Si rien ne s'est passé durant le vol, ils peuvent effacer l'enregistrement. Ils peuvent effacer l'enregistrement.
Ça veut dire une hôtesse de l'air qui vient demander au commandant de bord, mon commandant voulait un café, voulait manger matin ou pas, on entend.
Bien sûr, mais ça c'est sans problème. Mmh. Et de la même manière, à une époque, on avait voulu...
Mais s'il lui dit, évidemment, mon commandant de bord, on se retrouve à la suite 202 à Singapour, ça sera effacé.
Ça sera effacé. On avait voulu à une époque, toujours dans un but de sécurité, on n'a pas encore évoqué ce mot-là, mais tout ce qui est fait dans un but de sécurité. Évidemment. On avait voulu filmer les cockpits, l'intérieur des cockpits. Les pilotes s'y sont opposés. Il n'y a pas de film de ce qui se passe à l'intérieur.
Mais il y a une caméra à l'intérieur.
Il y a une caméra.
Moi, j'étais le week-end dernier, j'étais à rencontrer Armstrong à Aspen, j'ai fait le vol de Los Angeles.
Oui.
Je suis allé saluer le commandant de bord à l'aller, et j'ai vu en arrivant, d'abord que sur le 777, mais c'est pareil sur le 380, la porte est fermée. On n'ouvre pas comme ça maintenant, comme avant. On ne rentre pas dans le cockpit comme avant.
Il y a eu tant de mesures de sûreté.
Il y a eu tellement de drames à bord des attentats. Mais également, il y a une caméra. J'ai vu qu'il y avait un écran et qu'on me voyait rentrer.
Oui, c'est une caméra de surveillance à l'intention de l'équipage de conduite.
Ouais.
Mais en aucun cas, on ne filme le travail de l'équipage de conduite.
Ouais.
Les conversations sont enregistrées, puis deuxième enregistreur, le flight data, c'est-à-dire l'enregistreur de paramètres, c'est-à-dire tous les éléments du vol de l'avion et tous les éléments sur les systèmes de l'avion. Et quand on récupère les deux boîtes noires, on arrive à reconstituer complètement un vol, puisque sur l'enregistreur de paramètres, on peut enregistrer sur les enregistreurs modernes jusqu'à 1200 paramètres.
Alors ce qui est intéressant évidemment, en cas de tragédie, c'est la conversation avec le sol.
Oui, mais pas seulement ça. La conversation avec le sol, elle va confirmer certaines choses, certaines décisions, certaines émotions, des interrogations entre les deux pilotes, par exemple. Très souvent, ça a suffi à donner l'alerte.
Alors j'ai vu, parce que moi je suis ça avec beaucoup d'attention, comme beaucoup de Français, parce que ça nous a tous marqué, ce drame de l'Airbus, c'est que les boîtes noires, au fond des mers, n'émettent plus au bout de 15 jours, 3 semaines.
Un mois.
Au bout d'un mois.
Un mois d'autonomie de batterie d'émission.
Donc on peut penser que les boîtes noires du vol Rio-Paris n'émettent plus aujourd'hui ? Elles sont en fin, disons.
Elles sont certainement en fin.
Non, c'est ça. Monsieur Georges.
Je voudrais juste dire effectivement que tout le monde est encore ému par cette catastrophe qui s'est déroulée donc le 1er juin, et avec une enquête confiée au bureau enquête analyse qui est en cours. Je crois que le bureau enquête analyse a prévu de donner des informations publiques le 2 juillet prochain. Il y a aussi une enquête judiciaire en cours, donc c'est vraiment un drame humain pour un très grand nombre de familles, donc en France mais au Brésil aussi et par le monde, puisque je crois qu'il y avait des passagers de tout le monde. Sur la question des boîtes noires en particulier, je crois que c'est 30 jours garantis, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver après. Mais je crois qu'effectivement, il est difficile vraiment à chaud de faire autre chose que le travail d'enquête-analyse qui est confié à des spécialistes. L'élément important, je crois, c'est que tous les éléments, que ce soit dans les boîtes noires ou que ce soit des enregistrements au sol, est toujours de toute façon, après un événement, mis sous scellé et que personne ne peut intervenir dessus. Je crois que ça, c'est clair. C'est le bureau enquête-analyse travaille en dialogue permanent avec l'enquête judiciaire et toutes les précautions sont prises depuis le début pour que tous les éléments qui peuvent être utiles aussi bien pour l'enquête technique que pour l'enquête judiciaire soient préservés en toute intégrité et qu'on puisse effectivement pas avoir aucune espèce d'hésitation sur la nature des informations. Je crois que c'est très important à dire ça.
Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé dans vos carrières, justement, de vous trouver dans une situation d'angoisse parce que vous aviez perdu le pilote, parce que la liaison était interrompue, parce que il y a eu le radar n'indiquait plus rien. Ça arrive rarement, mais ça avait déjà arrivé.
Des situations d'angoisse à proprement parler, non, mais effectivement, le fait de ne plus avoir un pilote en contact radio, ça arrive malheureusement. C'est d'ailleurs toujours un sujet d'étonnement pour moi que des pilotes arrivent à rester sans contact radio en traversant des zones extrêmement encombrées de l'espace aérien français. Bon, ça arrive de moins en moins. C'est vrai que Germain a évoqué tout à l'heure les problèmes de sûreté depuis les attentats de 2001. Dès qu'on a une perte de contact radio ou une absence de contact radio pour quelque raison que ce soit, on a des instructions claires de prévenir les militaires qui éventuellement envoient les patrouilles, enfin des avions de la chasse pour intercepter les vols et pour leur faire comprendre qu'ils doivent causer à quelqu'un.
Oui, monsieur Georges.
Oui, perte de contact radio ne veut pas dire perte de contact radar. C'est-à-dire que l'avion, il est toujours bien connu, identifié.
C'est essentiel, d'ailleurs.
On a ces informations plan de vol, c'est-à-dire qu'on connaît sa destination, et de toute façon, les contrôleurs aériens sont toujours à même. Le temps de rétablir la communication, parce qu'on arrive toujours, ça ne dure jamais très très longtemps, on arrive toujours à contrôler le trafic autour. Je crois que c'est... on peut y avoir des interruptions pendant quelques minutes, mais c'est jamais... Et, comme vous dites, l'armée de l'air, en plus, a un processus qui permet d'envoyer des avions de chasse, éventuellement. Et des fois, ça sert juste à alerter le pilote pour qu'il remette ce bon.
Alors, on va écouter Véronique Jeannot chanter Aviateur, qui est une chanson que vous n'avez pas oubliée. Vous vous souvenez de ce clip où elle chantait au milieu des pilotes de la patrouille de France. C'est Souchon et Voulzy qui avaient écrit cette chanson. Et après, on va parler, bien, il peut arriver qu'il y ait des méprises qui peuvent entraîner des catastrophes. Et on reparlera de celle de Tenerife de 1977 qui avait fait, je crois, 550 morts. C'était le 27 mars 1977. C'était une collision au sol, ce qui est rarissime. Alors, nous revenons à ce métier, le ciel sous contrôle, de Germain Chambost. Alors moi, j'aimerais revenir, parce que j'ai encore ça en mémoire, c'était à Tenerife en 1977, c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée, et c'était au sol, M. Chambost, hein. C'est arrivé au sol. Nous sommes le 27 mars 1977 à Tenerife, aux Canaries. Il faut d'abord préciser que c'était des circonstances particulières, parce que je crois qu'à cause d'une alerte à la bombe, sur le terrain de Las Palmas aux Canaries, les autorités décident de neutraliser l'aéroport et de diriger les avions vers Tenerife, l'île voisine, cet aéroport n'est pas équipé pour recevoir un tel trafic. C'est ça le problème de départ.
Hein? C'est ça. Et en plus, sur Tenerife, un brouillard a coupé au couteau, ce qui empêche les contrôleurs, depuis la tour de contrôle, de voir les avions, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument faire confiance aux conversations, aux messages qu'ils transmettent aux avions et à la réponse que les pilotes de ces avions leur envoient. Et il se passe un drame abominable, c'est qu'un avion s'aligne sur la piste, c'est-à-dire qu'il prend position pour décoller, alors qu'un autre avion est en train de remonter, c'est-à-dire de parcourir cette piste en service, avant de sortir et d'aller se mettre lui-même en position.
Ce sont deux gros porteurs, deux 747. Alors, gavés de kérosène, évidemment, puisqu'ils sont en décollage. La compagnie néerlandaise KLM a 248 passagers à bord, et de l'autre, il y a la Panam avec près de 400 passagers à bord. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les cockpits? Parce qu'il y a plusieurs langues, en plus.
Là, tout le monde parle en anglais. Tout le monde parle en anglais, oui. Mais la conversation n'est pas de très très bonne qualité. Il y a une confusion sur les termes et le copilote de l'avion de la KLM qui s'aligne et qui se prépare à décoller, il fait une erreur sur un message. Et d'autre part, le commandant de bord, pour des raisons d'amplitude de travail, ça paraît incroyable, veut absolument décoller. Et il force un peu la décision, il n'écoute pas les doutes du mécanicien navigant, qui n'est pas très sûr, lui, qu'ils aient reçu l'autorisation de décoller. Il n'écoute pas. Et d'autre part, il n'écoute pas non plus son copilote, qui a été son élève. Problème de liaison hiérarchique à l'intérieur du cockpit. On en a tiré les leçons, parce que il faut quand même dire, on parle de cet accident, il a été terrible, mais chaque accident de l'aviation civile, on en a tiré immédiatement des leçons, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'aviation commerciale, quoi qu'on puisse en penser, c'est le moyen de transport le plus sûr.
Alors revenons en détail, parce que c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que le 747 de la KLM a l'autorisation de décoller, il va prendre... Il remonte la piste, il est au point, il va décoller, et le commandant de bord dit « We are now take off », c'est-à-dire que maintenant nous sommes prêts à décoller, il comprend qu'on lui donne l'autorisation de décoller, alors que la tour comprend qu'il précise qu'il est prêt à décoller, mais qu'il ne va pas encore décoller.
Absolument.
C'est ça la confusion.
Absolument. Oui. On a supprimé, d'ailleurs, nos amis les contrôleurs ici présents pourront nous en parler, on a supprimé le mot take-off dans certaines circonstances, le mot take-off, décollage, qui a prêté à confusion ce jour-là.
Alors, oui, pardon ? Allez-y, monsieur.
Je voulais juste préciser, effectivement, compléter ce que dit Germain. Germain a raison, en particulier sur le point, le retour d'expérience. Un choc, événement. Là, on parle d'événements tragiques qui sont des accidents, mais on peut avoir des petits événements qui ne sont pas des accidents. Mais on s'est rendu compte qu'un pilote n'était pas allé au bon endroit. Et à chaque fois, on étudie ça avec les pilotes, avec les contrôleurs, pour en tirer les enseignements. Et vous avez évoqué les enseignements sur la phraséologie. Effectivement, depuis 20 ans et en permanence, on améliore la phraséologie et on s'assure que chaque information est bien comprise. Et on a aussi des moyens techniques, c'est-à-dire notamment, vous avez parlé du brouillard, je crois que sur les grands aéroports et en particulier les aéroports parisiens, on a des systèmes de radar sol, on a parlé du contrôle au sol, oui. Il y a des radars aussi pour le sol, les avions sont suivis au radar au sol et ils ont des balises qui émettent, donc on sait exactement, même dans mauvaise visibilité, où sont tous les avions au même moment. Et on a aussi un certain nombre de systèmes comme ça qui permettent, des systèmes lumineux, des barres d'arrêt lumineuses qui permettent d'interdire des accès. Je crois que c'est très important de comprendre qu'on peut à chaque fois améliorer la sécurité en améliorant les procédures, en améliorant les éléments de langage direct entre le pilote et le contrôleur. Et puis on doit aussi, et c'est ce qu'on fait, améliorer la technique pour pouvoir aider vraiment le contrôleur et le pilote pour assurer de la sécurité qui, effectivement, comme le rappelait Germain, c'est vraiment ce qu'on doit faire, c'est vraiment le cœur du métier.
On revient, M. Chambos. Il est donc 17h, le 27 mars 1977. Le commandant de bord du 747 KLM comprend qu'il peut décoller. Il met plein gaz. Et puis voilà, il roule, take off, hurle le copilote, mais il est trop tard parce que l'avion est trop lourd. Et à ce moment-là, en face de lui, il y a les phares de l'autre avion.
De l'avion de la Paname.
Il le percute. Il est à 300 à l'heure. Bilan 583 morts. Seuls 61 passagers vont s'en sortir. Alors, on va réécouter ce qu'on entendait sur Europe 1 le 28 mars 1977, le lendemain de l'accident. Écoutez, c'est Catherine Dufresne qui interroge un aiguilleur du ciel, qui lui donne son sentiment.
Il y a quand même de gros problèmes au niveau du manque de matériel, manque d'équipement à Tenerife, enfin dans toute l'Espagne en général, dans toute la région espagnole. C'est ce qui a un peu motivé la grève du zèle que font les contrôleurs espagnols depuis déjà quelques mois.
Et qui est toujours en cours, cette grève des ailes?
Qui est toujours en cours, oui, parce que ils ont un matériel qui est vraiment très peu fiable, des conditions de travail qui sont assez épouvantables. Et cette grève des ailes, donc, dure depuis déjà quand même 6 ou 8 mois, oui, facilement.
Est-ce que vous pensez qu'effectivement, une surcharge du trafic sur un trafic déjà chargé en temps normal pourrait être une cause de cet accident?
Il est possible qu'il y ait une surcharge de travail et que le contrôleur ait peut-être été dépassé. Hein.
Voilà, alors ça, c'est dans toutes les mémoires. Ça a été affreux, cette histoire-là.
Affreux. Affreux, mais ça a provoqué une remise en question, une prise de conscience et le fameux retour d'expérience dont on parlait il y a quelques minutes.
Bien sûr. Alors vous dites dans votre livre, bon évidemment, cette catastrophe-là, elle a eu en 77, hein, on parle toujours de, évidemment, on montre en épingle les catastrophes, mais dans 99% des cas, tout se passe très très bien, évidemment. C'est comme quand les
plus que 99%.
Plus, c'est pratiquement
beaucoup de neuf derrière.
Hein. Oui. Presque 100%. Alors, vous décrivez, Germain Chambos, dans votre livre, une conséquence inattendue et dramatique d'un accident d'avion, c'est l'assassinat d'un contrôleur aérien.
Oui. Oui.
C'est le mari d'une des passagères qui a
C'était, deux avions se sont percutés au-dessus du lac de Constance, enfin, Überlingen. Il y avait un avion russe. Et dans cet avion russe, il y avait une passagère avec deux enfants qui allait rejoindre son mari qui travaillait en Espagne. Et le mari, il s'est révolté, bon, moins contre le fait que de l'accident lui-même que contre le manque de réaction, disait-il, des autorités helvétiques, puisque c'était sous contrôle suisse. Et ça lui a tourné la tête et outré, un jour, il a acheté un couteau spécialement pour ça, il est allé attendre le contrôleur et puis il a assassiné le contrôleur, comme si c'était lui le responsable, alors que le contrôleur était bien aux commandes devant son micro, mais quand on creuse un peu, tout le système en réalité était à mettre en cause et pas seulement le contrôleur qui lui avait des pannes à gérer, des avions à gérer, etc., etc.
Il y avait un matériel défaillant.
Un matériel qui était en opération de remplacement de maintenance et lui il avait des moyens très limités et il était en plus tout seul pour gérer son secteur, tout seul.
On marque une pause de pub, l'émission est loin d'être terminée, car j'aimerais bien écouter une voix féminine, hein, une aiguilleuse du ciel. C'est Odile Prigent qu'on va avoir tout à l'heure, dans quelques minutes en ligne. Elle est contrôleur aérien au centre en route de la navigation aérienne ouest à Brest. C'est une de vos camarades, monsieur Even.
Europe 1 découverte spéciale aiguilleur du ciel, avec une voix féminine maintenant, Michel.
Oui, je crois qu'il y a 30% de femmes hein, qui sont contrôleurs du ciel. Bonjour Odile Prigent.
Bonjour et bonjour à vos trois invités.
Ben, vous les connaissez bonjour, parfaitement, Odile. Je suppose que vous avez lu le livre de monsieur Chambos.
Oui.
Alors, votre travail est le même que celui des hommes, bien sûr. Et pourquoi vous avez voulu faire ce métier, Odile?
Alors en fait, c'est un concours de circonstances. Mes parents avaient des copains contrôleurs aériens. Ah oui. Et le fait de les entendre décrire leur métier, de voir la passion qu'ils avaient pour ce métier, m'a donné envie de faire la même chose.
Alors, quelles sont les difficultés en tant que femme?
Difficultés? Est-ce que j'aurais préféré que vous disiez quelles sont les facilités.
Ou les facilités. Parce que c'est vrai que 30%, bon, la parité, elle progresse. Hein, elle progresse. 30%, ouais. C'est déjà pas mal. Mais...
Bon, je ne crois pas que le métier de contrôleur aérien soit un métier qui nécessite la parité, comme dans d'autres domaines. Et ce n'est pas compliqué d'être une femme contrôleur aérien. Par chance, le métier ne requiert pas de connaissances qui seraient plus masculines que féminines. Et ça, c'est très bien. Par contre... je pense que ce qui est commun aux hommes et aux femmes, plutôt, c'est qu'il faut un certain caractère. Je n'ai pas dit mauvais caractère, j'ai dit du caractère. Voilà. Parce qu'en fait, il faut pouvoir concilier les objectifs d'un pilote de ligne, qui sont d'amener son avion d'un aéroport à un autre à l'heure et en consommant le moins de pétrole possible, avec le nôtre qui est, lui, d'écouler le trafic de la manière la plus sûre possible.
Ah, vous avez dit une chose importante, hein, en essayant d'être le plus économique possible, oui, en dépensant le moins de pétrole possible.
Oui, c'est-à-dire que c'est un objectif qui est maintenant de plus en plus important pour un pilote, c'est de consommer le moins de pétrole possible.
Donc d'utiliser la route la plus directe.
Oui, absolument, et c'est aussi une de nos fonctions. mission de pouvoir faciliter le travail de l'usager.
Alors, parlez-nous de ce qu'on appelle le projet 3E.
Ah, c'est un grand projet.
Voilà, vous êtes l'une des pionnières de son développement. C'est quoi le projet 3E ?
Alors, 3E, ça s'appelle, en fait, c'est les trois initiales de environnement électronique et râteau. C'est un système franco-français qui a été développé en vue de son implantation dans 4 CRNA, puisqu'on enlève le CRNA d'Atismont, ce qui a une spécificité beaucoup plus différente du fait qu'il s'occupe des approches. Et c'est une petite révolution, puisque ça consiste à enlever le support papier qu'on appelle le strip, et qui existait dans les CRNA depuis des années et des années, qui permettait aux contrôleurs d'inscrire...
Alors vous parlez du CRNA, c'est le centre en route de la navigation aérienne ouest, c'est ça ?
Absolument, c'est-à-dire que l'appellation
qui est basée
est
à Brest.
La même... Oui, l'appellation est la même pour les 5 zones, c'est CRNA, et puis après on ajoute l'initiale pour la zone.
Ouest, est ou sud ?
Voilà, donc en fait pour Brest, Reims, Aix-en-Provence et Bordeaux, l'implantation sera la même, c'est-à-dire qu'on enlève donc ce support papier sur lequel le contrôleur notait toutes les informations qu'il avait besoin pour un vol, à savoir l'éclairance qu'il peut lui donner, la route, les différents niveaux auxquels il l'autorise. Et puis on va remplacer ça par de la saisie informatique en modifiant l'interface de l'image radar et puis en rajoutant des listes de vols électroniques. Voilà.
Bien. C'est une révolution pour vous. Et pour le contrôleur aérien, c'est une autre façon de travailler ?
Oui, ça va demander une grosse modification de la méthode de travail, puisque notre méthode était vraiment basée en grande partie sur la tenue de cette bande papier. Et là, maintenant, il va falloir passer sur des saisies au travers d'une souris. Donc ça demande quand même une grande adaptation au contrôleur.
Bien sûr.
L'image mentale peut être modifiée. Donc on va implémenter, en plus de ça, des aides au contrôle qui sont de l'ordre d'un filet de sauvegarde amélioré, d'un agenda qui permet de présenter les conflits en cours ou à venir pour une position de contrôle. Et puis ça va aider le contrôleur à faire encore mieux son travail et de façon encore plus sûre.
Bien. Odile, est-ce que vous êtes une pilote du dimanche ?
Je l'ai été.
Oui,
je l'ai été.
Sur quel appareil ?
DR400.
DR400, ben c'est bien. Donc voilà. Vous savez de quoi vous parlez.
À peu près.
Quand vous dites un pilote du dimanche qui panique parce qu'il est pas bien, il attaque pas bien sa descente, sa finale, ou il a pas compris où il est en vent arrière, vous savez ce que c'est.
Absolument. Je me suis beaucoup frottée à ce genre de pilote quand j'étais sur l'aéroport de Limoges. Donc, je les connais un petit peu.
Merci beaucoup, chère Odile Prigent.
Bonne journée.
Eh bien, vous connaissez bien Odile, vous travaillez avec
oui,
elle.
Oui, tout à fait, oui.
À Brest.
Très passionnée par ce qu'elle fait.
Donc, ça avance, ça n'a plus rien à voir maintenant avec les conditions de travail des aiguilleurs du ciel à l'époque où Béco chantait dimanche à Orly. On est loin de ça, monsieur Georges.
Oui, je ne sais pas si le métier a plus rien à voir. Ce que je sais, c'est que le métier est en perpétuelle évolution. On a évoqué tout à l'heure l'Europe, nos partenaires suisses, et je crois que, je ne sais pas si les autorités suisses ont été défaillantes, je crois pas. Je crois qu'il y a une catastrophe comme celle du Berlingen tout à l'heure, ça touche toute la communauté. Et effectivement, maintenant, on est passé dans la phase des enseignements. Et Odile évoquait le système en disant Erato, en disant que c'était un système franco-français. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que le développement du contrôle aérien, ça se fera avec les contrôleurs dans la boucle, mais vraiment des outils de plus en plus modernes. Je crois qu'il faut l'idée, c'est pas seulement passer d'un strip papier à une souris, c'est vraiment avoir un environnement électronique totalement moderne, et ça sera à l'échelle européenne. Je crois que nous sommes vraiment en train de construire une nouvelle Europe du contrôle aérien, et l'objectif, c'est d'avoir vraiment à l'horizon 2015-2020 un système de contrôle aérien qui soit vraiment intégré au niveau européen, en particulier pour tous les systèmes techniques. Et c'est pour ça qu'on travaille, pour qu'il y ait la même qualité, la même sécurité pour tous les avions, sur tous les aéroports d'Europe, avec tous les prestataires, qu'ils soient français, suisses, allemands, etc. Je crois que c'est vraiment vers ça qu'on travaille.
On se retrouve dans un instant, Julie.
Michel Drucker et ses invités, Maurice Georges, Didier Evin et Germain Chambost, qui nous présentent son livre « Le ciel sous contrôle » aux éditions Altipress.
Avant de terminer cette émission, Monsieur Chambost, essayons d'être un peu bref. Comment faisait-on quand les contrôleurs n'existaient pas, quand ce métier n'existait pas ? Pendant la guerre, comment ils ont fait ?
Eh bien, pendant la guerre, les avions de bombardement et les avions de chasse étaient quand même suivis par des radars anglais.
Car les radars existaient.
Les radars existaient, c'était tout le sud de l'Angleterre. Ça a beaucoup aidé les Anglais à résister. Et puis, les avions étaient guidés au gonio. Alors le gonio, qu'est-ce que c'est? Ben, un pilote émet une émission. Il parle pendant quelques secondes et au sol, le gonio, l'homme gonio tournait un écran, un volant, et il repérait la direction de l'émission. Mais on avait une direction. Alors si on mettait deux gonios suffisamment espacés, en repérant deux émissions, on arrivait à trouver le point de rencontre.
Dans
ma jeunesse, j'ai fait des percées au gonio.
Bien
on
sûr.
Utilisait encore ça, y compris en avion réaction.
C'était l'onde radioélectrique émise par l'avion.
Absolument, absolument.
Alors, après la guerre, je suppose que les installations étaient dans un piteux état, non?
Oui. Il faut quand même se rappeler qu'à la fin de la guerre, les Américains s'étaient installés à Orly. Ils avaient installé un premier radar à Orly. Lorsque les alliés rêvaient de mettre la France sous tutelle militaire, n'oublions pas ça. Et puis très très vite, les moyens se sont améliorés et le radar est arrivé. Mais le radar au début, qu'est-ce que ça repérait? C'était d'origine militaire le radar. Oui. Ça repérait un point dans le ciel. Mais c'est tout. Il n'y avait pas d'identification de ce point. Les contrôleurs ont donc dû s'habituer à ça. Et quand vous les contactiez, pour être sûr que c'était bien vous, ils vous commandaient une manœuvre, faites-moi 30 degrés à droite, et là, ils vous repéraient.
Vous avez parlé des militaires. Les militaires en France, ils ont leur propre aiguilleur du ciel, leur fréquence.
Hein. Absolument, ils ont leur fréquence. Et ils ont au total 88 radars, civils et militaires, pour surveiller le ciel français.
La réglementation officielle du contrôle aérien, ça date de 45, c'est ça?
Oui.
Oui, c'est ça. Alors, au début, le CCR, hein, le contrôle français, était dirigé en moins de régions que maintenant. Il y en avait moins.
Oui, il y avait Paris, Bordeaux, et puis Aix, Aix-en-Provence.
Istres, c'est ça, des côtés. De
Oui, Istres, et puis ensuite Aix-en-Provence.
Bien. Alors, l'émission touche à sa fin. Je peux pas ne pas vous interroger sur les conflits. C'est vrai que les Français souvent ne comprennent pas toujours pourquoi les aiguilleurs du ciel se mettent en grève, parce que là, c'est une vraie paralysie, surtout que ça arrive souvent pendant les vacances. Est-ce que vos revendications, monsieur Georges, ont toujours été bien reçues? Est-ce que votre profession a obtenu ce qu'elle souhaitait? Et à chaque fois que les aiguilleurs cessent le travail, ce sont pour quelles raisons? Des raisons de conditions de travail, salariales?
Alors là, les contrôleurs aériens, effectivement, sont soumis à une loi qui, de 1984, qui leur donne le droit de grève, mais sous certaines limitations. C'est-à-dire qu'effectivement, nous devons assurer un service minimum en permanence. Un service minimum au départ d'un très grand nombre d'aéroports français et un service minimum pour accueillir tous les flux en survol. Ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, les contrôleurs aériens ont le droit de grève. Je crois pas qu'ils fassent grève tant que ça, ni sans motif valable, même si moi je suis plutôt représentant de l'administration. Donc, si vous voulez, après, quand on est en conflit social, on est toujours amené à des négociations qui sont difficiles. Ouais. Mais dans la pratique, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons un dispositif au sein de la fonction publique qui permet non seulement, même en situation de grève, d'assurer la sécurité du trafic. Ça veut dire qu'une grève du contrôleur aérien n'a pas d'impact sur la sécurité du trafic, même si on doit réduire le nombre d'avions. Et le deuxième point, c'est qu'on a, je crois, un service minimum qui est assez moderne, dans le sens où, en fonction de l'amplitude du mouvement, s'il n'y a pas beaucoup de contrôleurs en grève, nous pouvons assurer un service de très bonne qualité. Et je dois dire qu'il y a eu un très grand nombre. Il y a eu certains mouvements sociaux nationaux récemment pour lesquels les contrôleurs aériens n'étaient pas en grève et pour lesquels l'impact a été vraiment très limité.
Vous dépendez de quel ministère? Les transports.
Alors c'est le MEDAT, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable,
monsieur
et l'aménagement du territoire.
Oui,
bien sûr,
ministre, monsieur Borloo.
Bien sûr, monsieur Borloo est mon ministre.
Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Germain Chambon. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Le ciel sous contrôle. Je remercie les contrôleurs du ciel, les contrôleurs de Robin Découvert. Dans la tour aujourd'hui, mais Vanessa Azaz, Jérôme Lacroix, Fabrice Lafitte. Il n'y a pas eu de collision. Bravo. Demain, Roger Gérard Schwarzenberg, auteur d'un livre sur un sujet que vous connaissez, l'escalade de l'état spectacle. Il avait déjà fait un livre qui a eu beaucoup de succès des années 80. On va parler un petit peu de la mode, et c'est vrai que les stars maintenant sont aussi les stars de la politique, avec tout ce que ça représente. Dans un instant, une star de la radio, Jean-Marc Morandini, il est là, ses aiguilleurs du ciel. Il y a une rotation toutes les deux heures aussi. Voilà. Les aiguilleurs de Jean-Marc sont arrivés.
À demain. C'était Michel Drucker pour Europe 1 Découverte. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.